jusqu'à 9h15,
Antoine Cavallero.
Et nous sommes donc le samedi 28 décembre. Nous allons vous informer. RTL, il est 6h. Et le journal, c'est avec Charles Ducrot. Bonjour Charles.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
À la une ce matin, il y aura un nouveau procès Mazan.
15 des 50 hommes traduits en justice pour avoir violé ou agressé sexuellement Gisèle Pellicot ont fait appel. L'avocat de Gisèle Pellicot s'exprime sur RTL. Dans ce journal également, 50 ans après la catastrophe de Liévin, un coup de grisou qui avait fait 47 victimes, l'émotion est toujours grande, vous l'entendrez. Le chiffre d'un drame en 2024 en Méditerranée, 10 400 migrants ont péri ou sont portés disparus.
De ce journal.
François Bayrou est attendu à Mayotte demain. Le nouveau locataire de Matignon sera accompagné de plusieurs ministres d'État, dont Elisabeth Borne et Manuel Valls. Objectif, bien sûr, discuter de la loi spéciale pour la reconstruction de l'archipel.
Et puis nous prendrons également la direction des Pyrénées où les amateurs de sports d'hiver se régalent cette année. La neige est au rendez-vous. On entendra le directeur de la station de Foron.
Et dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, tout ce qui change au 1er janvier au niveau des diagnostics de performance énergétique dans nos habitations. Et oui, et puis la note secrète de Fabrice Lafitte consacrée au tube The Fool de Gilbert Montagnier. Anthony Kazmarek, la tendance météo.
Eh bien, le ciel va rester gris une très grande partie de la journée sur un bon quart nord-ouest jusqu'en Île-de-France. Plus à l'est, plus au sud, ce sera ensoleillé après la dissipation des brouillards parfois givrants. Les températures, c'est très froid ce matin et cet après-midi, 0 à 8 degrés sur la moitié nord, 8 à 15 plus au sud.
Aïe, 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 météo complète en fin de journal.
Europe 1.
Et donc, quelques jours seulement après son arrivée place Vendôme, Gérald Darmanin multiplie les annonces. L'une d'elles, bien sûr, mener des opérations place nette dans les prisons.
Le but, nettoyer les cellules de tout ce qui est interdit, comme les téléphones portables, les armes ou encore la drogue. Et visiblement, le nouveau garde des Sceaux va avoir du pain sur la planche. Exemple à la prison de Nantes, Carquefou. Le week-end avant Noël, près de 200 projections d'objets vers la cour du centre pénitentiaire ont été comptabilisées. Et ce, en quelques heures seulement, William Molinier.
Oui, 197 précisément, des colis empaquetés et lancés au-dessus des grilles de la prison par des complices situés à l'extérieur. Tout cela se fait aux heures de promenade, sous le regard impuissant des surveillants situés dans les miradors. 197 projections à la veille de Noël, c'est un record, mais qui n'a pas surpris William Kozik, délégué local du syndicat FO pénitentiaire.
Surpris, non, comme habituellement, il y en a quand même 150 minimum dans le week-end. Mais là, sur une seule journée, ouais, je pense qu'on a dû battre un record. On arrive quand même à 207% de taux d'occupation, 250 matelas au sol. Donc il y a davantage de clients, entre guillemets, mais on est totalement démunis, comme on ne peut pas rentrer sur une cour de promenade avec 80 détenus pour récupérer les projections.
Et la nuit du 24 décembre, c'est même un drone qui a survolé l'établissement. Il s'est approché de la fenêtre d'une cellule d'un détenu particulièrement surveillé, un gros poisson nantais qui bénéficie de nombreux soutiens à l'extérieur de la prison. 100 grammes de drogue et un téléphone ont été retrouvés dans sa cellule. Depuis le début de l'année, 20 kilos de produits stupéfiants, 1200 téléphones et 62 armes ont été saisies dans les geôles de cette prison nantaise.
William Molinier pour Europe.
Et de son côté, François Bayrou se rend à Mayotte dès demain. Un déplacement qui s'annonce très tendu pour le nouveau Premier ministre.
Car le 13 décembre dernier, le locataire de Matignon avait préféré se rendre à Pau pour son premier déplacement pour y présider le conseil municipal. Un choix vivement critiqué par les oppositions. Tendu aussi au vu de la situation chaotique dans l'archipel ravagé par le passage du cyclone Chido. François Bayrou sera accompagné de plusieurs ministres, notamment celui des Outre-mer, Manuel Valls. L'un des objectifs sera de consulter les élus locaux pour achever une loi spéciale, loi consacrée à la reconstruction de l'archipel. Écoutez Manuel Valls, il était l'invité d'Outre-mer la première.
Nous sommes mobilisés, c'est ce que je veux dire. Je suis conscient que quand ici l'électricité n'a pas été encore mise en œuvre, qu'il manque de l'eau, grande partie de l'habitat qui a été détruit, qu'on est en train de reconstruire aussi déjà des bidonvilles. Moi, je peux comprendre le sentiment d'impuissance. Ça sera long et difficile, complexe, nous le savons. Je pense qu'il faut utiliser ce qui s'est passé, ce drame, en tirant les leçons du passé pour le faire autrement. Je reconnais que c'est difficile.
Dans le reste de l'actualité, on apprend ce matin que la France a transmis à l'Indonésie une demande officielle de rapatriement de Serge Atlaoui, un Français condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue. L'information a été transmise par le ministre indonésien en charge des affaires juridiques et des droits humains. Serge Atlaoui est âgé de 61 ans. Il avait été arrêté en 2005 dans une usine à l'extérieur de Jakarta. les autorités l'accusant d'être un chimiste.
Les zones d'ombre persistent autour du crash d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines au Kazakhstan.
Ce crash a eu lieu mercredi, le jour de Noël. 38 personnes au total ont perdu la vie. 29 personnes ont survécu miraculeusement. Et alors qu'une enquête est en cours, l'hypothèse d'un missile anti-aérien tiré par la défense russe est de plus en plus évoquée par les spécialistes aéronautiques. L'appareil civil allait atterrir à Grozny, cible d'une attaque ukrainienne. Il s'est retrouvé dans un environnement de guerre électronique mortelle, Nicolas Tonev.
Oui, il faut imaginer la situation le jour du drame au-dessus de la capitale tchétchène. Des drones ukrainiens en approche pour les neutraliser. Un déchaînement de moyens électroniques, du brouillage spécifique dirigé vers ces drones, le brouillage des moyens de communication et des signaux GPS qui affectent du coup l'appareil d'Azerbaïdjan Airlines en approche. L'avion désorienté sort de la trajectoire prévue. Est-ce que cela trouble les tireurs russes ou l'Embraer 190 se retrouve-t-il sur la trajectoire d'un missile? En tout cas, l'affaire finit tragiquement parce que Moscou laisse l'avion civil s'approcher de la zone de guerre, selon Xavier Titelman, spécialiste aéronautique militaire.
La difficulté, c'est que la Russie a laissé son espace aérien ouvert tout en sachant qu'il y avait des attaques sur son territoire. Et la Russie, aujourd'hui, c'est elle qui est coupable de ne pas avoir le sérieux aéronautique en émettant des interdictions de survol pour les avions civils.
Quand le missile anti-aérien est lancé, il atteint immédiatement plus de 2000 km/h. Un avion civil ne peut pas manœuvrer assez vite pour l'éviter. Seule solution, ne pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Azerbaïdjan Airlines a tiré les conclusions du drame en décidant de suspendre ses vols vers cette ville russe potentiellement dangereuse pour ses passagers.
Nicolas Tonev pour Europe 1. Et dans cette guerre en Ukraine, plus de 1000 soldats nord-coréens ont été blessés ou tués selon Washington. Pour la Maison-Blanche, ces militaires dépêchés par Pyongyang ne sont considérés comme de la chair à canon. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que des soldats nord-coréens blessés sont morts en Ukraine après avoir été faits prisonniers. À Bormio en Italie, grosse frayeur pour Cyprien Sarrazin. Le skieur français a chuté hier lors de la deuxième session d'entraînement, conséquence d'une mauvaise réception après un saut. Emmené à l'hôpital de Soldano, le français a été opéré pour drainer l'hématome intracrânien. Certains skieurs pointent du doigt la dangerosité de la piste qu'ils retrouveront pour les Jeux Olympiques 2026.
Les stations de ski, oui, les stations de ski justement qui font le plein cette année après quelques années compliquées. Hein.
Et jusqu'ici, les conditions climatiques ne permettaient pas un enneigement naturel. Les canons à neige tournaient donc à plein régime en cette période de Noël. Mais cette année, la météo a permis une ouverture des pistes début décembre. Pour le plus grand plaisir des amateurs de sports d'hiver, exemple du côté de la station de ski de Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales, avec son directeur Jacques Alvarez.
Cette saison, elle est assez incroyable puisque à date, on est à 22% de fréquentation supplémentaire par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent, ce qui est très prometteur pour cet hiver. Et on le voit, au moment où on se parle, on est à quasiment 100% d'ouverture sur le domaine de ski alpin. On a également les deux secteurs nordiques qui sont ouverts, donc on peut pratiquer toutes les glisses. Donc c'est une saison qui est vraiment très bonne.
Des propos recueillis par Alexis Bourbon pour Europe 1.
Oui, et on termine ce journal avec un mot du top 14 et du rugby.
Oui, le championnat reprend dès aujourd'hui, 13e journée du championnat. Calendrier difficile pour les joueurs qui ont dû jongler entre repas de Noël et préparation pour ce week-end, Charles Bouchain.
Oui, difficile pour les joueurs de top 14 de résister aux écarts pendant les fêtes. Depuis 20 ans, Stéphane Valran est le diététicien de l'ASM Clermont. Et pour lui, la règle primordiale, c'est...
Il est à peu près interdit d'interdire. C'est-à-dire qu'on n'interdit aucun aliment, c'est plutôt au niveau des proportions. Si par exemple un joueur me dit « je veux manger 2 douzaines d'huîtres, un gros morceau de foie gras et après une côte de bœuf », je dis non. Il faut limiter les proportions.
Et les rugbymans ont tout de même dû soigner leur alimentation sur les autres repas.
On va par contre leur dire de manger des choses très légères, peu travailler, peu cuisiner, comme par exemple des légumes à la vapeur, comme par exemple de la viande blanche.
Un régime draconien appliqué à la lettre par le joueur castré Julien Dumora. À 36 ans, le demi d'ouverture en a fait l'une des clés de son succès pour être à 100% chaque match.
Depuis quelques années maintenant, je travaille avec un nutritionniste en perso pour pouvoir être le plus performant possible. Du moment où j'ai commencé il y a quelques temps maintenant jusqu'à maintenant, il y a eu une réelle prise de conscience.
Une prise de conscience aussi pour prévenir le risque de blessure et permettre aux joueurs de fouler les pelouses du top 14, le ventre léger.
Merci Adrien Spiteri. On vous retrouve, je crois, pour le journal permanent d'ici quelques minutes. Vous restez dans les environs. Anthony Kazmarek, la météo. Un peu de brouillard quand même ce matin.
Ah, même beaucoup, sur beaucoup de régions. Visibilité réduite sur les routes, parfois moins de 200 mètres. Donc soyez extrêmement vigilants. Brouillard, brume, nuages bas, grisaille et parfois un peu de crachin, ça n'est pas très agréable. Sur un large quart nord-ouest, des côtes de la Manche jusqu'à l'Île-de-France, jusqu'au centre-Val-de-Loire et jusqu'à la Gironde. Plus à l'est, plus au sud, ce sera ensoleillé dès ce matin. Mais attention, il y a aussi quelques plaques de brouillard. Brouillard parfois givrant dans le Val-de-Saône et la plaine d'Alsace. Et puis cet après-midi, ça va rester gris encore sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le centre-Val de Loire jusqu'au Poitou-Charentes. Mais dans les plaines du sud-ouest, vous allez retrouver le soleil. Et puis il restera peut-être quelques plaques de grisaille autour de la Bourgogne et de la plaine d'Alsace. Mais sinon, dans l'est, ce sera très ensoleillé. Attention toutefois, ce soir, la grisaille du nord-ouest va gagner du terrain vers l'est. Et il y aura peut-être quelques bruines verglaçantes, nous dit Météo France, en Champagne-Ardenne. Avec des températures qui sont froides ce matin, ça gèle quasiment partout sauf près des côtes. Et cet après-midi, vous n'aurez que 0 à 8 sur la moitié nord, 4 pas plus à Paris et 8 à 15 quand même sur la moitié sud.
Merci Anthony Kazmarek, merci beaucoup. Et puis, sachez que dans 2 minutes à peine, nous retrouverons Thomas Schnell et vous. Thomas Schnell et vous, c'est la version des vacances de Pascal Pro et vous, hein, vous l'avez compris. Mais juste avant les courses avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Charles, c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet, une course au trot attelé qui réunira 16 trotteurs âgés de 8 à 10 ans sur la distance de 2700 mètres avec un solide favori, Reven Déjà Vu, le numéro 3 qui nous arrive de Suède en pleine possession de ses moyens et qui n'aura qu'à répéter ce qu'il avait réalisé l'hiver dernier à Vincennes pour pouvoir ici l'emporter. On lui opposera les numéros 16, Flambeur du Dijon, dont la parfaite condition physique ne fait aucun doute, comme le prouve sa victoire obtenue le 6 décembre à Vincennes et qui, sur sa lancée, ne devrait avoir aucune difficulté à confirmer. 15, Graziella Del, quatrième d'un quintet similaire le 11 décembre à Vincennes et qui, jugé sur cette performance, peut être considéré comme une certitude à l'arrivée. Et 13, Staro Mojito, qui alterne avec réussite les courses au trot monté et au trot attelé et capable surtout d'adopter toutes les tactiques. Enfin, les numéros 12, Gianna de Marzi, 5, Eunice du Patural, 7, Franco Fleury et 14, Go to America compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 16, 15, 13, 12, 5, 7 et 14.
Merci Thierry Léger.
Thomas Schnell et vous
sur Europe 1. Et oui, Thomas Schnell et vous, c'est la version pendant les vacances de Pascal Pro et vous. Pascal Pro qui est sans doute du côté de Noirmoutier en Loire-Atlantique et qui passe des jours paisibles en attendant son retour l'année prochaine, comme on dit. Alors Thomas Schnell recevait cette semaine Jean-François Rial, le directeur général de l'agence Voyageurs du Monde. Quelles sont les destinations ou produits touristiques privilégiés par les Français en cette période de fête? C'est la question qu'on s'est posée. Extrait.
Les Français ont envie de voyager malgré la période politiquement instable, l'érosion du pouvoir d'achat. On pose la question à Jean-François Rial. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, président directeur général de Voyageurs du Monde. Vous organisez des voyages sur mesure. On est plutôt dans le haut de gamme. À quel point est-ce qu'il y a eu des réservations pour les vacances de Noël?
Alors on raisonne plutôt, Noël, jour de l'an. Je dirais que la croissance est assez significative, de l'ordre de 15%, je dirais, par rapport à l'année dernière. Mais il y a aussi un effet de rattrapage de cet été qui n'a pas été très bon. Parce que les Jeux Olympiques ont perturbé l'écosystème touristique pour un tas de raisons. Et donc, on a l'impression qu'il y a, malgré, comme vous le disiez, le contexte géopolitique et politique qui est pas très bon, un effet de rattrapage assez fort sur cette fin d'année.
Ça veut dire que les Jeux Olympiques, dont on se réjouit aujourd'hui, on a des chiffres officiels sur les retombées économiques pour le tourisme en France, ça a pénalisé, à l'inverse, les Français de partir, c'est ça ?
Exactement, mais ça les a pénalisés sur la période de l'été, vous voyez, c'est-à-dire que ça a pénalisé à la fois l'arrivée des touristes étrangers, parce que là, vous avez eu une baisse du tourisme étranger pendant la période des JO, mais ça a pénalisé aussi le départ des Français à l'étranger, par un effet de peur, de sursaturation des compagnies aériennes et des aéroports et des tarifs très élevés. Néanmoins, post-Jeux Olympiques... Dans le sens étranger vers la France, c'est très bon parce que l'image qui a été donnée a été excellente. Mais sur le moment, ça peut générer des problèmes de ce type. Et dans l'autre sens, effectivement, les gens ont moins voyagé. Et du coup, ils en profitent pour partir plus l'hiver.
Donc vous constatez un engouement pour les voyages alors qu'on n'est pas encore dans la haute saison de réservation en ce moment.
Non, on n'est pas encore dans la haute saison, mais vous avez des destinations comme, paradoxalement, toutes les destinations du monde arabe, de la Méditerranée, parce que la Méditerranée souffre un peu plus l'été également à cause du réchauffement climatique, et au contraire est très très agréable l'hiver. Donc vous avez de plus en plus de gens qui vont en Italie, en Grèce, dans le sud de l'Espagne, l'hiver, qui est très agréable. Et puis, bien sûr, l'Asie qui marche très très fort. On est sur une reprise de l'Asie qui est très forte depuis à peu près un an. Et je dirais que les gens en profitent pour se faire un peu des voyages long courrier, se faire plaisir l'hiver.
Sur les types de voyages aujourd'hui privilégiés par les Français, Jean-François Rial, on préfère quoi ? On va dormir chez l'habitant ? On va en club, en camping, à l'hôtel ? Dites-nous.
Bah, tout ça existe. Hein. Ce qui est le plus important, c'est le voyage individuel qui explose. Ça, c'est clair.
On part seul en voyage, c'est ça ?
Vous partez de moins en moins en groupe et vous partez en individuel ou en petit groupe privé, quoi. Vous voyez, ça, c'est une tendance extrêmement forte. Après, quand vous voulez aller vous reposer et avoir un budget très limité, vous partez en club. C'est pas du tout ce qu'on propose, mais c'est une formule qui marche très, très bien. Et puis sinon, vous voyagez à l'hôtel, bien sûr. Il y a plein d'offres de type d'hôtel. L'offre chez l'habitant existe également. Tout ça existe en camping, pas trop en ce moment quand même, hein. C'est plutôt l'été quand même. Hein. Le camping, ça marche très bien.
France Bleu, Clara Luciani, tout pour moi, Clara Luciani, que vous retrouvez dans un très beau film qui est sorti mercredi dernier, joli, joli. Une comédie musicale française, c'est rare, hein, donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil, c'est vraiment sympa. Il y a José Garcia également au casting, ou encore Vincent De Dienne, c'est sorti mercredi dernier. Il y a de la musique, moi j'adore. Parlons, tiens, de la coquille Saint-Jacques maintenant à 6h17 sur France Bleu. C'est le coup de fourchette, le vôtre, Nathalie Elal, avec donc un coup de projecteur sur ce coquillage qui est très souvent présent sur nos tables de fête et qui intègre de nombreuses recettes. Mais au fait, Nathalie, une question. D'où vient ce nom coquille Saint-Jacques ?
Ce coquillage, il a tout simplement servi de symbole aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui l'arboraient sur leurs vêtements et sur leurs chapeaux. Elle leur permettait de se distinguer des autres voyageurs, de boire dans les fontaines et de demander l'aumône aux habitants. Mais son histoire, elle remonte bien plus loin, à des millions d'années. Présente depuis la préhistoire, elle a servi d'ornement, de monnaie et même de porte-bonheur.
Tiens donc, ça c'est pas mal. Et quelles sont ces variétés et comment surtout bien la choisir ?
En France, il y a la Pecten Maximus, c'est-à-dire la véritable coquille Saint-Jacques. Elle se pêche en Manche et en Atlantique. Vous la trouvez en baie de Saint-Brieuc, en rade de Brest ou encore dans les pertuis charentais. Et surtout, attention aux imitations. Les pétoncles ou noix importés de Chine ou de Nouvelle-Zélande ne sont pas de vrais Saint-Jacques. Pour les reconnaître, une astuce infaillible. Observez la coquille. Si une valve est bombée et l'autre plate, c'est une authentique Pecten Maximus. Mmh. Et vous pensez à les choisir en fonction de leur taille. Pour des plats festifs, justement, privilégiez les plus grosses qui offrent une chair plus généreuse. Et pour les nettoyer, vous les ouvrez juste avant de les consommer et vous retirez délicatement les bardes qui entourent la noix.
La fameuse barde, effectivement. Alors, une idée de recette facile et rapide, bien sûr, pour le réveillon, Nathalie ?
Toujours. Je suis allée demander à Cédric Rimet, le chef du restaurant La Table à la Grande Épicerie de Paris, sa recette de tartare de Saint-Jacques, vraiment idéale à préparer quasi à la dernière minute. On compte deux noix par convive, on les passe sous un léger filet d'eau froide, on taille en petits dés. Et là, une astuce du chef, on passe chaque noix dans un coupe-œuf, dans un sens puis dans l'autre, c'est plus efficace que le meilleur des couteaux. Ensuite, on cisèle séparément une échalote et de la ciboulette, on effeuille des sucrines, On concasse des noisettes avec un couteau ou en appuyant dessus avec le dos d'une poêle. On épluche une clémentine. On retire les petites peaux blanches désagréables. On les coupe en petits morceaux. On mélange dans un bol les dés de Saint-Jacques avec les échalotes. On râpe par-dessus du zeste de citron vert. On ajoute son jus. On parsème de noisettes concassées, d'un peu de fleur de sel, un tour de moulin à poivre, quelques petits morceaux de clémentine et on arrose d'huile d'olive. On finit avec la ciboulette ciselée et on dresse le tartare dans les feuilles de sucrine. La petite touche du chef est la mienne. Pour une note encore plus iodée, un peu de salicorne en garniture à servir en entrée ou même à l'apéro.
Oui, et pourquoi pas en dessert. Moi, perso, je la rajouterai également en dessert. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette belle suggestion de recettes pour les fêtes. Et on continue de parler du réveillon avec les fameuses résolutions. Sont-elles encore utiles? Faut-il encore en prendre? Répondre dans la grande d'enquête de Muriel Jourdan juste après Stella Ida sur France Bleu. France Bleu, bon réveil à tous, bon début de week-end et Benjamin Biolay arrive avant la demi-heure.
Ici, dès 6h.
Actu locale, musique et bonne humeur
sur France Bleu.
Et de la bonne humeur, vous en avez forcément dans la grande enquête de Muriel Jourdan à 6h23. Muriel qui part chaque week-end à votre rencontre pour tenter de répondre à de grandes questions et à quelques jours de 2025. Zoom ce matin sur la tradition des bonnes résolutions. Bonjour Muriel.
Bonjour à tous, mes chers radio-compatriotes. Dans quelques jours, il sera temps de vous souhaiter une bonne année. C'est pourquoi ma nouvelle grande enquête porte sur nos résolutions pour 2025. Ah, bientôt les vœux du président de la République. Moi, je vais boycotter, hein, parce que je pense que tous les vœux souhaités par nos présidents nous ont porté la poisse.
L'année 2008 s'achève. Elle a été rude. Mes meilleurs vœux pour 2009. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève. Je sais qu'elle fut rude.
L'année 2014, une année rude. Oh. 2015,
ouais, ça va être cool.
Peut-être une année d'audace.
2015 fut une année de souffrance.
Oh, okay. Oui, cette année 2020 a été difficile.
Bonne année à tous.
Vive la République
et vive la France.
Ok, bah tout est dit. Pour les besoins de cette enquête, je pars à votre rencontre dans la rue pour connaître vos bonnes résolutions. Car qui dit bonne année dit bonne résolution et bien sûr, chèque de 800 euros encaissé par la salle de sport où l'on n'ira jamais. Alors, vos résolutions ?
Moins perdre du poids. Même si tout le monde s'inscrit à des salles de sport, etc. Mais même chez soi, faire du yoga ou des choses comme ça qui tonifient un peu plus le corps.
Et pour ces enquêtes, j'adore prendre des risques. Alors je décide de pousser la porte d'une salle de sport et je tombe sur Marie, coach de sport qui gère aussi les inscriptions. Ambiance.
Effectivement, nouvelle année, bonne résolution. Donc il y a beaucoup plus de démarches pour venir s'inscrire en salle de sport. Après, il y a plusieurs phases dans l'année. Il y a les bonnes résolutions, il y a le summer body juste avant l'été.
Il y en a qui abandonnent.
C'est dur de tenir sur la longueur et c'est le plus important dans le sport. C'est pas en deux semaines qu'on fait la différence.
J'ai regardé l'abonnement et au moment de signer et de saigner pour 60 euros mensuels, j'ai soudain été prise de violentes courbatures. Oh, j'ai passé mon tour. Autre résolution à laquelle il va falloir s'attendre, celle de ne pas boire pendant tout le mois de janvier. Vous savez, le dry January, janvier sobre. A priori, ce couple de 70 ans a choisi de ne pas en être.
Oh bah moi, si je peux boire une coupette de champagne, je suis ravie.
Bah écoutez, moi, je vais pas boire jusqu'à dans une heure. Et jusqu'à, oui, dans une heure.
Bah, c'est pas mal, une heure. Faut tenir, hein. Bon, après, ça peut mettre la pression aussi de toujours avoir des bonnes résolutions. Hein. Parfois, c'est mieux de pas en avoir.
Je me donne pas de résolution comme ça. Je vis un peu au jour le jour.
Mon seul dogme aujourd'hui, c'est de me dire le soir, quand je me couche, est-ce que ma journée a été satisfaisante ? J'ai pas, c'est pour ça que je ne réfléchis même plus en résolution, genre de choses, parce que je trouve que c'est s'épuiser pour rien. Faut pas reporter à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Il faut se dire que la vie, ça va vite.
Et si on faisait tous pareil ? Mais d'abord, il va falloir continuer à survivre aux messages de type « Noyeux Joël » ou « Santé, mais pas des pieds hein. » ou encore l'incontournable « Bon Néné 2025 ». Allez, courage et bon réveillon.
Et on est déjà dans l'ambiance. Mardi soir, ce sera la fête hein, pour beaucoup d'entre vous. Et nous, on sera là, bien sûr, pour vous accompagner sur France Bleu. Merci beaucoup, Muriel Jourdain. Et rendez-vous sur FranceBleu.fr pour les podcasts de Des Grandes Enquêtes. Dans 5 minutes, François, l'info d'ici, avec aujourd'hui...
L'épidémie de grippe, elle prend de l'ampleur en France. On va faire un point sur les derniers chiffres et sur les bons conseils des autorités pour éviter une contamination.
Prends-moi tout, la vie, la dignité, ma pointe sur le port. Les trois sous de côté qui demandent à moins tant d'efforts. N'oublie pas d'emporter le canapé et tout confort. Ne laisse rien. Le cèdre centenaire, le panorama. Non, n'oublie rien. Même si c'est pour tout mettre au débarras. Mais rends prêté, reprendre ses volets, mais je t'ai jamais rien donné. S'il te plaît, rends l'amour, et je me jette de la falaise, et je m'en vais te cueillir des fraises, si tu veux m'aimer. Mes désirs, mes totems, mon éteint. Emporte tout, sois sûr que tu n'oublieras rien. Déleste-moi, n'y va pas par quatre chemins. Tu peux brûler le cours de terre battue, de feu nos échanges. Taguer, taguer le coin de rue où est passé l'ange. Je m'en vais te cueillir des fraises, si tu veux m'aimer.
sur France Bleu, rend l'amour, c'était Benjamin Biolay. Avant de faire un point sur la météo, 6h30, toute l'actualité en 90 secondes en France et dans le monde, c'est avec vous François Breton.
C'est une petite révolution, surtout pour les amateurs d'iPhone. Les nouveaux téléphones sont désormais vendus avec un chargeur universel USB-C. Il devient obligatoire en France à partir d'aujourd'hui pour toute une série d'appareils électroniques. 11 000 tonnes de déchets devraient être évitées en Europe avec cette mesure. François Bayrou, attendu demain et lundi à Mayotte avec 5 ministres, dont celui de l'Outre-mer et celle de l'Éducation nationale. Le recteur de Mayotte pourrait décaler la rentrée d'une semaine du 13 janvier au 20 janvier. Certains établissements scolaires sont aujourd'hui transformés en centre d'hébergement, une dizaine de jours après le passage du cyclone Chido. Le nombre de cas de grippe grimpe en France et les premières victimes sont les plus de 65 ans. Près de 90% des personnes décédées la semaine dernière à l'hôpital faisaient partie de cette tranche d'âge. Les autorités appellent à respecter les gestes barrières en cette période de fête et de rassemblement familial. Rouler lentement, emprunter des petites routes, 7 Français sur 10 prévoient de mauvaises solutions pour rentrer chez eux après leur soirée du Nouvel An, selon la prévention routière. Elle dénonce une méconnaissance autour de l'alcool au volant, alors que chaque année, 17 personnes meurent sur les routes lors de cette période du Nouvel An. Du monde sur les routes aujourd'hui pour aller et partir des stations de ski. Bison Futé voit orange dans le sens des départs et des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Orange aussi pour les retours en Île-de-France. Enfin, le joli cadeau de Noël pour un parieur de Mont-de-Marsan. Il a trouvé le quintet dans l'ordre le 25 décembre dernier. Il gagne donc 133 000 euros. Un joli cadeau de Noël sous le sapin pour ce monsieur.
Et à 6h31 sur France Bleu, François, nous allons nous arrêter sur l'épidémie de grippe qui gagne du terrain. C'est l'info d'ici de ce samedi.
Oui, le taux d'incidence a plus que doublé en l'espace d'une semaine, selon le dernier bulletin de Santé publique France. L'organisme a compté.
Trafic de drogue. Cet artisan soudeur s'est toujours défendu d'être un trafiquant de drogue, affirmant qu'il n'avait fait qu'installer des machines industrielles dans ce qu'il croyait être une usine acrylique. L'affaire, à l'époque, avait fait grand bruit en Indonésie, où la législation anti-drogue est l'une des plus sévère au monde. Le chef de l'État par intérim en Corée du Sud, à son tour destitué hier vendredi par les députés. Un nouvel épisode dans la crise politique qui secoue le pays depuis la tentative ratée du président déchu d'instaurer la loi martiale. Un mot de sport de ski, plus précisément avec le skieur Cyprien Sarrazin, victime hier d'une violente chute à l'entraînement. Ça s'est passé en Italie. Conscient, le sportif est hospitalisé en réanimation neurologique pour l'heure et reste sous surveillance. C'est ce qu'a fait savoir la Fédération Française de Ski.
La météo à Glagla aujourd'hui.
Exactement, avec ce matin des brouillards parfois givrants en Alsace et en Val-de-Saône, de la grisaille de la Manche jusqu'à la Gironde. Ailleurs, un ciel plus ensoleillé avec des gelées, hein, sauf sur le nord-ouest ce matin, parce qu'il y a de la grisaille. Sur le nord-ouest, le nord et l'ouest cet après-midi en temps encore gris. Ailleurs, ce sera calme avec toujours du grand soleil sur les reliefs et le pourtour méditerranéen. Le mercure lui indique ce matin entre moins 4 et 9 degrés. Cet après-midi, les valeurs seront comprises entre 1 et 17 degrés.
L'infotrafic sur Nostalgie avec Mutuelle de Poitiers Assurance. Mutuelle de Poitiers Assurance, assurance des particuliers et des professionnels.
Une carte bicolore aujourd'hui dans le sens des départs vert et orange. La circulation est attendue plus difficile, hein, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le sens des retours. Orange également pour l'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur l'Île-de-France. C'est vert sur le reste du territoire.
Merci Nicolas, à tout à l'heure, toutes les demi-heures, comme évidemment chaque matinale du week-end. On va parler de ce qui s'est passé dans l'histoire de la musique. Tiens, aujourd'hui ça intéresse beaucoup de monde.
Et pas n'importe quel jour.
Un 28 décembre.
Non, on va remonter dans le temps.
Fait, hein.
C'est pas mal pensé quand même, cette histoire.
Bravo.
Restez dans les parages pour en savoir plus. Oh là là, Mylène Farmer. Oh là là, Renaud, Eddie Grant. Et puis alors celle qui est toujours bien coiffée au réveil. Ou pas. Désireless sur Nostalgie.
voyage, voyage.
Vous souhaite de joyeuses fêtes.
Viens, je t'en prie, c'est ton ami.
mélancolique, c'est un des risques des fêtes, ça. Mylène Farmer, bon réveil sur Nostalgie.
Bon réveil. Bon week-end avec Nostalgie.
6h42, on parlera de Renault, le renard. Tout à l'heure, c'est l'heure d'ailleurs de la sortie du renard en général, si vous êtes à la campagne. Profitez peut-être des vacances ou de ce week-end. D'abord, on remonte un petit peu dans le temps. On va voir ce qui s'est passé dans l'histoire de la musique un 28 décembre 1978, par exemple. Les lecteurs, les critiques aussi sondés par le magazine Rolling Stone se mettent d'accord. L'album Some Girls des Rolling Stones, cette fois, est le disque de l'année. Et on trouve notamment de Sumisu, c'est le titre qui ouvre cet album. 1979. Ah, je l'adore, elle. Kate Bush est l'invitée de la BBC pour un show de Noël. Peter Gabriel fait partie de ses invités. Et enfin 1985, j'adore ça aussi, Eddie Murphy, numéro 2 du Billboard America avec Party All The Time, écrit, composé, produit par Rick James. Lionel Richie lui vole la vedette avec son Say You, Say Me. On va revenir très vite avec Renaud, comme je vous l'ai dit, Eddie Grant aussi, et puis Jean-Louis Aubert, sans oublier le 4 à la suite qui se prépare à 9h sur Nostalgie, écoutez ça.
Le week-end sur Nostalgie, on compte sur vous.
Le matin,
9h, 10h et 11h.
Votez pour écouter jusqu'à 4 tubes de votre artiste ou groupe préféré.
Samedi et dimanche.
À l'honneur, Madonna, Rick Astley, Earth, Wind & Fire
et beaucoup d'autres.
Le 4 à la suite.
Le rendez-vous du week-end sur Nostalgie.
À 9h, 10h et 11h.
Nostalgie. Chez Conforama, on sait que le bonheur, ça commence par de belles nuits.
Découvrez 8h, notre nouvelle marque de matelas, sommiers, couettes et oreillers, offrant un confort maximum et des prix accessibles.
Et c'est à retrouver en exclusivité chez Conforama.
Conforama.
Nostalgie, les plus grands tubes.
You won't come. Russian.
En droit, il faut faire respecter les règles.
Comment tu fais si la personne est dans une mauvaise adresse?
Eh ben, à un moment donné, enfin, il faut peut-être faire un
fichier. Donc, elle a des mauvais papiers.
Il faut peut-être faire un fichier de fraudeur et à un moment donné, les interdire de prendre les transports en commun.
Ça, j'aime bien. Voilà. Les interdits de stade, interdits de train.
Mais oui! Mais il faut aussi s'interroger sur les raisons pour lesquelles certains fraudeurs fraudent. Voilà.
Bah parce qu'ils n'ont pas d'argent.
Alors, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'il y a aussi l'état des transports en commun, c'est peut-être aussi par colère.
Par idéologie.
En rébellion de la SNCF.
Rébellion
contre l'État, tu veux dire.
Voilà.
Okay, ouais, les anarchistes.
L'état des transports en commun. Bon, mais ce ne sont pas des bonnes raisons, de toute manière. Il faut respecter les règles.
Je suis sûre que vous ne serez pas d'accord avec ça, Amélie Rosic, vous qui êtes quand même beaucoup plus douce que Yaël.
Alors moi, dans la répression.
C'est pas qu'elle est beaucoup plus douce, c'est que c'est la mentalité en France de ceux
qui ne veulent jamais de sanctions. Tu vas m'écouter et puis tu vas voir si c'est la mentalité qui te plaît ou pas, tu jugeras ensuite. Non, je suis pragmatique et rigide. Pragmatique, c'est-à-dire que vous êtes bien mignon, il faut augmenter les amendes, etc. Sauf que les amendes, on n'arrive pas à les recouvrer. Donc à récupérer l'argent. D'accord. Ok, donc en fait, tu auras beau augmenter, ça ne changera rien. Donc ça, c'est à l'épreuve de la réalité, ce n'est pas idéologique, c'est pragmatique.
Jusque-là, c'est ce que j'ai dit.
Jusque-là, donc c'est pour ça. Écoute-moi et peut-être qu'on sera d'accord. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On continue pas dans cette voie-là puisqu'elle ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faudrait faire, à mon sens, c'est contraindre les fraudeurs à acheter, au moment où ils sont pris la main dans le sac, un abonnement. Pour ça, j'entends bien que c'est très compliqué parce que, je t'explique, je comprends bien que c'est très compliqué parce que la technique classique du fraudeur, c'est de dire « j'ai pas mes papiers d'identité chez moi ». Et donc là, intervient la rigidité. T'as pas tes papiers d'identité, tu vas au commissariat et on va trouver ton identité et on va te contraindre à prendre un abonnement de TER.
Mais donc, il faut qu'il y ait des policiers dans le train. C'est pas le contrôleur qui va te ramener chez toi.
Ah oui, non mais alors tout ça ne se fera pas sans frais. Sauf que si tu regardes les chiffres là de combien on perd, je suis pas une pro donc je sais pas combien il faudrait investir et combien derrière on arriverait à récupérer. Mais si tu fais prendre des abonnements à tous les gens qui fraudent, je te garantis que tes 25 TER en plus tu les auras. Et par ailleurs, ça permettra une chose. Et moi, pour le coup, comme toi Yael et probablement comme Daniel, parce qu'il ne prend pas les transports en commun, je paye mes abonnements. Et donc c'est vrai que de temps en temps, j'en ai un petit peu ras la casquette de me dire qu'en fait ça augmente parce que tu payes aussi
pour
compenser la fraude.
C'est les gens
moi je paye
bien,
aussi pour ceux qui ne payent pas. Donc pragmatisme et rigidité, fermeté.
Alors on a Jessica qui est avec nous, elle est machiniste RATP depuis 5 ans. Jessica, elle nous appelle d'Authier. Bonjour Jessica.
Bonjour.
Jessica, est-ce que ça servirait à quelque chose d'augmenter les amendes selon vous?
Non, pas du tout. En fait, faudrait partir sur le système anglo-saxon plus exactement. C'est-à-dire que quand on fraude, on est arrêté par la police, on est conduit au commissariat et après on a une ouverture de casier judiciaire et on passe devant le tribunal.
Voilà, merci.
Oui, d'accord, mais alors Jessica, le truc c'est que vous êtes à la RATP, la RATP, vous n'avez pas des policiers sur chaque quai en fait. Comment on fait ?
En fait, c'est tout un système qu'il faut réformer. Aujourd'hui, les contrôleurs, moi, quand ils montent dans mon bus, la plupart des gens, je l'ai vu de mes yeux, il y a une dame qui fraude tous les jours et à chaque fois, elle dit au contrôleur qu'elle s'appelle Elizabeth Windsor et qu'elle habite à Buckingham Palace.
Excusez-moi, j'ose espérer que le contrôleur ne la croit pas.
En fait, il est obligé de noter parce qu'il n'a pas le droit de la retenir sur place, parce que sinon c'est de la séquestration. Il n'a pas le droit de lui fouiller ses affaires. Et les gens le savent très bien tout ça. Donc en fait, tous les jours, il note une amende au nom d'Elizabeth Windsor qui habite à Buckingham Palace.
C'est terrible ce que vous dites.
La pauvre Elizabeth.
Mais c'est ça. Ce que ça illustre, c'est la difficulté du boulot des contrôleurs. C'est-à-dire qu'en plus, quand ils rentrent chez eux le soir, ils doivent se dire qu'ils servent à rien, les pauvres, puisque de toute façon, on se fout d'eux.
Parce que n'oublie pas le nombre de cas où ils disent rien, parce que sinon ils se font agresser. Oublie pas ça.
Ah, mais tu parles des machinistes. Oui, bien sûr.
Bien sûr, Jessica, je penserai d'accord là-dessus.
Il faut des policiers.
Ils sont où les policiers?
Il y a pénurie.
Ils ont déjà tellement à faire, les malheureux.
En fait, il faudrait que les contrôleurs aient les mêmes droits que les policiers. Donc,
c'est pas possible. C'est une formation particulière.
Oui, voilà. Et puis, ils prendraient les risques. Ils sont déjà fermentés.
Oui, mais vous le savez très bien, aussi bien que moi, un contrôleur, et avec tout le respect que j'ai pour les contrôleurs, ce ne sont pas des policiers. S'ils se retrouvent face à un individu virulent, qu'est-ce qu'ils vont faire, les contrôleurs? C'est le maintien de l'ordre.
Et c'est les mettre en danger. Danger. Mais je comprends, en tout cas, votre point de vue, Jessica, et je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. C'est-à-dire que s'il y avait plus de policiers pour faire respecter, effectivement, l'ordre dans les transports, on s'en porterait mieux. Merci beaucoup. Jessica, on a Vincent également qui est contre. Contrôleur SNCF, justement dans les TGV. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Bien et vous?
Impeccable.
Alors, vous allez pouvoir répondre à ma question, parce que moi, j'ai l'impression que, en tout cas, dans la plupart des gares, maintenant, les gares TGV, il y a des portiques. Et c'est-à-dire que pour frauder, surtout avec sa valise, pour passer au-dessus d'un portique, il faut quand même le faire. Donc, il n'y a plus beaucoup de fraude dans les TGV, finalement, Vincent.
Alors, dans les TGV, il y a beaucoup moins de fraude qu'il y a eu il y a quelques années. Pour autant, il y en a toujours, puisque vous pouvez prendre un billet avec une réduction cheminot, par exemple. Et ça vous empêche pas de passer le portique. Hein. Donc, c'est à nous, après, dans les TGV, de faire le travail et de régulariser la personne.
Il faut supprimer la réduction cheminot.
Ou les réductions seniors, où on fait des
Ça veut dire qu'ils prennent quand même un billet.
Au moins, ils payent un petit peu.
Oui, alors, ils prennent un billet, mais ils prennent un billet qui coûte 10 balles pour aller en Haïti.
C'est vrai, mais ça me gêne un peu moins. Parce que je vais pas dire que c'est.
Il y a une intention à moitié
pardonnée. Mais bon, il y a quand même un petit truc qui est payé. Vincent, comment on pourrait faire pour lutter contre la fraude selon vous?
Réembaucher, je pense que c'est ça, surtout le truc. Hein. Parce que là, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 7% de fraude. Quelque chose comme ça.
En moyenne nationale, tout confondu, transport en commun.
Ouais, sauf que la moyenne, elle est faite sur le nombre de trains couverts par les contrôleurs et le nombre de cas qu'on fait. Le souci, c'est qu'on a des trains en TER, en l'occurrence, qui s'appellent des trains sans contrôleur. Ouais. Ceux-là, ils ne sont pas notés. Par exemple, la ligne Paris-Le Mans, qui est la plus fraudée de France, je crois.
Il n'y a pas de contrôleur?
Il y a pas de contrôleur, c'est un train sur 8, il y a un contrôleur.
Faut pas le dire trop fort, du coup.
tout le monde le sait.
Il y a pas de sujet,
mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, sur 10 000 passagers, il y en a 8 qui sont contrôlés, quoi.
Et Vincent, les lignes où il y a des contrôleurs, est-ce qu'il y a moins de fraude, finalement, parce que les gens savent qu'ils vont être contrôlés?
Oui, c'est sûr. Il y a moins de fraude. Maintenant, il y a toujours de la fraude, mais il y en a beaucoup moins, puisqu'effectivement, ils savent que tel train est toujours contrôlé. Ils savent, en fait, quand ils regardent le matériel arriver, ils savent s'ils vont être contrôlés ou pas, puisqu'il y a des matériels qui ne peuvent pas rouler sans nous.
Vincent, voilà, on a bien compris que la solution, c'était peut-être pas forcément de monter le montant des amendes, mais en tout cas d'avoir plus de contrôle, parce que c'est quand même dissuasif. Merci Vincent, en tout cas, d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il faut taper plus fort sur les fraudeurs? C'est la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi-Rémy.
La réponse, elle est assez évidente, assez logique, c'est oui pour 88% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC.
11h30, la Coupe du Monde de ski alpin à Bormio. Dès 14h, rugby top 14, Pau-Vannes. 16h, Bayonne-Castres. 18h, Clermont-Montpellier. Et à 21h05, UBB Toulon.
RMC, numéro 1 sur le sport.
RMC, sport d'hiver. Envie de neige et de grands espaces? Cet hiver, je skie en famille ou entre amis. Partagez votre passion. Les clubs de la Fédération Française de Ski vous accueillent et vous font profiter de nombreux avantages. Tentez l'expérience et laissez-vous porter. On s'occupe de tout. Bienvenue au club et rendez-vous sur www.ffs.fr avec RMC.
Le Parisien vous invite à remonter le temps avec son nouveau hors-série Vivre à Paris au temps de la Belle Époque. Découvrez un Paris vibrant entre l'effervescence des théâtres, des expositions universelles, des inventions révolutionnaires et la face cachée des quartiers populaires. Vivre à Paris au temps de la Belle Époque, un hors-série Le Parisien chez votre marchand de journaux.
RMC, Anaïs Matin,
Anaïs Castagna.
Bonjour à tous, vous écoutez Anaïs Matin. On est là avec Peggy Broche. On ne vous a pas oublié. On n'a pas oublié de se réveiller, n'est-ce pas Peggy?
Non, c'était bien prévu. Salut Anaïs, bonjour tout le monde.
Je dis ça parce que normalement, en effet, on prend l'antenne à 6h le week-end. Mais comme on sait que les fêtes de Noël, c'est éprouvant pour tout le monde, on s'est dit, on va les laisser dormir une petite heure en plus pour le dernier week-end de l'année. D'ailleurs, tiens Peggy, dis-moi tout. Est-ce que Noël s'est bien passé?
Très bien.
T'as été gâtée.
Ouais. Et puis surtout, j'ai bien mangé.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as pas trop mangé, t'es pas dégoûtée?
Non, je suis pas dégoûtée.
Non, mais t'es prête à repartir au
évidemment.
Combat.
Évidemment,
pas toi.
Bon, aussi, toujours. Allez,
toujours. Allez, et vous nous racontez ce matin au 32-16 et sur l'appli RMC, on vous attend.
Et au 32-16, on va également revivre ensemble les meilleurs moments de l'année.
Oui, avant de tourner la page de 2024, on va faire le bilan avec vous ce matin. Que gardez-vous de cette année? Votre meilleur souvenir? Moi, ce sont les JO de Paris que j'ai vécu avec vous. C'est cet été sur RMC. D'ailleurs, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, invité d'Anaïs Matin à 8h40 tout à l'heure.
Et Tony Estanguet, dont certains disent qu'il est la personnalité de l'année. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que pour vous, c'est plutôt Léo Marchand, Céline Dion, ou encore... Donald Trump, sait-on jamais.
François Bayrou,
32-16.
Vous attend, oui, bon, 32-16. 32-16, vous pouvez aussi venir nous dire ce que vous avez envie d'oublier cette année, ce qui vous a le plus marqué. On vous attend toute la matinée, évidemment. Ce matin, Libération revient notamment sur la dissolution et sur cette année particulière pour la France avec 134 jours sans gouvernement de plein exercice. Comment vous l'avez vécu? Comment jugez-vous les premiers pas du gouvernement Bayrou? On vous attend au 32-16. On parlera du déplacement de François Bayrou à Mayotte demain et lundi avec 5 de ses ministres. Déplacement 2 semaines après le passage du cyclone Chido qui a ravagé l'île. Est-ce que vous trouvez que l'exécutif est à la hauteur dans la gestion de cette crise? Vous nous dites, vous entendrez ce matin dans nos journaux ce que vivent les habitants de Mayotte, encore privés de courant, avec peu de réserves d'eau potable, fatigués, exténué, reportage à suivre. Et le député LFI David Guiraud sera avec nous ce matin à 7h40. D'abord, avant de commencer, avant d'écouter le journal de Clément Gouitz, on va faire un point complet sur ta météo, Peggy. Qu'est-ce que ça donne dans le ciel aujourd'hui?
C'est un temps calme, on n'a pas de pluie, mais on a un temps bien gris, beaucoup de grisailles, surtout sur l'ouest du pays. Grisailles, brouillard, crachin, bruine sur tout l'ouest, entre la Manche, l'Île-de-France, le centre, en allant vers les pays de la Loire et en redescendant vers les plaines du sud-ouest. Des plaques de grisaille également sur les plaines d'Alsace et sur le Val-de-Saône entre Dijon et Lyon. Et puis c'est beau ailleurs ce matin entre les Pyrénées, le Massif central, la Méditerranée, les Alpes, en remontant vers les frontières du Nord. Cet après-midi, on peut s'attendre à une belle amélioration sur toute la moitié sud avec du beau soleil en remontant vers la Franche-Comté et le Grand Est, même si localement on peut avoir quelques plaques de grisaille qui persistent ici ou là, mais pas grand-chose. Et surtout l'ouest du pays, surtout le nord-ouest du pays, ça reste gris. Cette grisaille ne va pas se dissiper. On a quelques bruines également localement, donc grisaille entre la Bretagne en allant vers le Bordelais et l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Ça restera gris partout ailleurs, donc du soleil. Et puis on a quelques bruines. Et attention, parce que ce soir, on peut avoir également des pluies verglaçantes du côté de la Champagne-Ardenne. Donc si vous sortez, soyez extrêmement prudents. Côté température, il fait froid. On est 4 à 5 degrés sous les normales de saison pour aujourd'hui. Moins 4 à moins 7 degrés sur le nord-est, c'est là où il fait le plus froid. Partout ailleurs, on a des gelées généralisées. Et pour cet après-midi, ça reste froid. 0 à 5 degrés sur la moitié nord, 0 à Strasbourg, 5 du côté de Tours et Rennes, 6 degrés à Besançon, 7 à Grenoble, 8 à La Rochelle.